Le rayon BD, des fifiches au capital, les crobards de l'écroard.
Vous connaissez l'Oubapo ?
Qui ? Oubapo quoi ? Vous pouvez répéter la question ?
Vous connaissez l'Oubapo ?
L'Oubapo ? Pas l'Oubo ? Non.
L'Oubapo ? Très joli, c'est provençal.
L'Oubapo ?
Non.
Kézako ?
Alors je voulais savoir si vous connaissiez l'Oubapo.
Ah non, pas du tout, hélas. Je connais l'Oulipo, mais pas l'Oubapo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture pour une rencontre aujourd'hui avec un auteur inclassable qui n'est sans doute pas le plus connu du grand public mais qui est incontestablement reconnu par ses pairs et par toutes sortes d'amateurs et d'amatrices de bande dessinée comme un auteur important, publié aussi bien par Spirou ou par Fluide Glacial que par la presse généraliste ou plus militante. Membre actif de l'association, la maison d'édition, membre aussi de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, de l'Oubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, membre encore du collège de pataphysique, de différentes formations musicales. Voilà plus de 30 ans qu'il cherche, qu'il innove, qu'il s'amuse, qu'il se creuse les méninges avec les mots, les dessins, les cases et tout ce qui fait le langage de la bande dessinée. Cet auteur, c'est Étienne Lécroard. Et nous le recevons aujourd'hui pour évoquer la parution à l'association de Fifiche à Gogo, un recueil des fifiches du pro-professeur qu'il publie chaque semaine depuis 1994 dans le journal de Spirou, une sélection donc plutôt de 224 dessins d'humour. Et nous parlerons également, c'est une première dans le rayon BD, d'un jeu de société, un jeu paru cette semaine, édité par la maison d'édition La Ville Brûle, un jeu tout ce qu'il y a de plus classique, avec des figurines, un dé, un plateau et des cartes, illustrées par Étienne Lécroard, mais un jeu qui se présente comme le premier jeu de sociologie critique. Il a été conçu par Monique et Michel Pinson-Charlot, il s'appelle Capital, avec un K et un point d'exclamation, et nous y jouerons peut-être un peu tout à l'heure. Mais pour commencer, pour faire un peu connaissance avec notre invité, qui est une relation récente, nous allons parler de contraintes réelles qu'il considère comme une lente récréation. Bonjour Étienne Lécroix.
Bonjour, ah bravo, c'est lente récréation, je pense que c'est un anagramme d'Étienne Lécroix, non ?
Lente récréation, c'est un anagramme d'Étienne Lécroix, relation récente également,
oh, la vache,
et contraintes réelles aussi.
Ah, contraintes réelles, je
le savais. Mais il manque un L. Donc, on a nos contraintes aussi à... Au rayon BD, j'ai essayé d'en faire quelques-unes. Notre première contrainte, en tout cas, dans cette émission, c'est qu'on commence par une archive. Alors, celle que j'ai choisie date d'août 1975. C'est le début d'un numéro de Tac au Tac, l'émission de bande dessinée qui passait à la télévision, réalisée par Jean Frappa. On l'écoute.
Ouais.
Bon, trouble conjugal.
Trouble conjugal, c'est le coup d'envoi donné par le duo Claire Bretet chez Gottlieb, opposé au duo Druyégir. La partie a commencé, chaque camp va donc, à sa manière, et à l'insu du camp d'en face, partir de ce premier thème. Ici Claire Bretet chez, qui ne perd pas de temps. De l'autre côté, Gire, un peu perplexe. Tout à l'heure, ce sera à lui et à Druyet, son partenaire, d'imaginer la suite du thème lancé par Claire Bretet chez. Le jeu consistant pour chacun des deux camps à construire un dessin aussi cohérent que possible, malgré les propositions adverses. Et chaque fois que la balle changera de camp, vous entendrez le signal musical que voici.
Étienne Lécroix, nous sommes en 1975, 17 ans avant la création de l'Oubapo, l'ouvroir de bande dessinée potentielle, dont vous avez été un des tout premiers membres. Et pourtant, là, l'intuition est déjà là.
Ah oui, oui. Enfin, pour moi, c'est une émission absolument, je sais pas, déterminante, je pense, dans ma carrière, avec d'autres choses, hein, avec la lecture de Pilote, qui était à peu près à la même époque. Je lisais des bandes dessinées, évidemment, depuis que j'étais tout petit. Mais là, à cette période-là, vraiment, ça m'a ouvert à des nouvelles façons de faire de la bande dessinée. Je pensais pas devenir dessinateur de bande dessinée à l'époque, hein, mais je m'intéressais beaucoup au dessin et de voir ces grandes stars du dessin improviser comme ça en direct à la télévision. Enfin, moi, c'était une émission que j'adorais, quoi. Et de toute façon, je trouve qu'il y a toujours une merveille de voir des gens dessiner en direct. Je dis pas ça parce que je suis dessinateur. Vraiment, je pense que ça marche pour tout le monde. C'est un truc incroyable. Et de voir en plus une improvisation. Et puis je m'en rappelle bien de cette émission, parce que, enfin, je sais pas si c'est exactement la même, mais je pense où il y a comme ça une Druillet qui prend une place de plus en plus énorme dans le dessin qui revient après,
qui prend énormément de temps
pendant que d'autres livres
Brett et Shea attendent.
Ah oui, mais c'était assez, c'est des très très beaux souvenirs. Ouais.
Donc en 75, vous aviez 15 ans, vous lisiez Pilote, le début de L'Écho des savanes.
Oui, c'est ça. Oui.
Le début de Métal hurlant peut-être.
Moi, j'étais un peu jeune pour lire les débuts de L'Écho des savanes. Je le disais peut-être discrètement, mais en tout cas Pilote, oui, c'était ma référence. Puis il y avait à l'époque des gens qui sont toujours pour moi des super références. Il y avait Reiser, il y avait GB, il y avait Gottlieb, bien sûr, évidemment. Enfin, voilà, tous ces gens-là, ils m'ont nourri et je leur dois toujours énormément. Oui.
Et quand est-ce que vous avez décidé de vous mettre à la bande dessinée? Parce que vous êtes allé aux Arts Déco, donc c'était quand même votre truc, le dessin.
Oui.
La BD, c'est venu quand?
La BD, c'est venu assez tard. En fait, j'ai commencé à faire du dessin d'humour. Enfin, quand j'ai commencé mon travail, vraiment à essayer de gagner des sous, j'ai fait du dessin d'humour, c'est spontanément ce qui est venu, et même plus du dessin d'actualité. Et la bande dessinée, c'est venu... Il y avait toujours ça, j'en ai fait toujours un peu, mais jamais sans les publier. Et c'est venu avec la naissance, un petit poil avant, mais vraiment non, avec la naissance de Loubapo, donc en 93-94, ouais. Donc j'avais déjà 33 ans, quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais, alors c'est Loubapo, donc ouvreur de bande dessinée potentielle, qui est né dans le giron de l'association, de la maison d'édition, avec Jean-Christophe Menu, Lewis Trondheim, Thierry Grunstein aussi, puis un certain nombre d'autres. Vous avez été non pas fondateur, mais très vite associé à ce mouvement. Qu'est-ce qui vous attirait là-dedans? Quelle potentialité vous cherchiez ou vous vouliez développer avec ce langage de la bande dessinée?
Ouais, alors avant ça, j'avais commencé à faire des petits bouquins qui étaient déjà avec des contraintes. Et plusieurs, alors des petits bouquins auto-édités, hein, avec des découpes, des pages découpées par bout, et puis on pouvait tourner un tiers de la page pour. Et voilà, enfin. Plein de genres de trucs comme ça. Et les gens m'ont dit, mais tu devrais aller voir les gens de Loulipo, vous auriez des choses à échanger. Et donc j'avais contacté des gens de Loulipo, d'ailleurs par le France Culture, dont j'étais déjà auditeur à l'époque, le Panorama, ils étaient souvent invités, ils participaient. Et donc moi j'ai contacté les gens de Loulipo, j'ai eu des réponses très positives et favorables, et puis est née l'association, la maison d'édition de l'association. Et je me suis dit, mais ces gens-là, je trouve ça super ce qu'ils font. Ils ouvrent des portes nouvelles dans l'édition de bande dessinée. J'ai envie de travailler avec eux. Donc, je les ai contactés. Et au même moment, ils se disaient qu'ils allaient créer Loubapo. Et donc, moi, en parallèle, je faisais mes petits trucs. Je leur ai montré. Et j'ai été convié à la deuxième réunion de Loubapo en février 93. Et après, je les ai jamais quitté ça, ouais. Donc, j'ai commencé au même moment, d'ailleurs, à faire un livre qui est un livre de bande dessinée. C'est mon premier livre de bande dessinée qui s'appelle Pervenche et Victor, dans lequel les pages peuvent se plier. Et donc, on peut lire le livre absolument naturellement. Et quand on a fini de lire le livre, on plie les pages et elle révèle une deuxième lecture qui est évidemment égrillarde et...
Perverse et vicieuse.
Perverse et vicieuse. C'était le titre qui se dévoilait aussi.
Alors, vous avez fait des pliages, mais vous avez fait après beaucoup d'autres livres avec différentes contraintes que vous vous imposez. Il y a eu des livres palindromiques, c'est-à-dire qu'on lit toutes les cases jusqu'à un certain moment, et à partir de cette case centrale, toutes les cases se redéplient dans l'autre sens et donnent une deuxième lecture.
Oui.
C'est souvent égrillard d'ailleurs, la deuxième lecture.
Souvent, il y a ça. Ben, ça, c'est un truc qui vient très très vite quand on joue avec les lectures cachées. C'est que vite fait, mais on peut utiliser ça autrement. Et enfin, je pense qu'on a tous fait ça. À Loubapo, on a tous fait ça, fait des trucs un peu ouais, égrillards, un peu jouant avec ce que normalement on ne fait pas. Et après, on n'est pas obligé de rester là-dessus. Et vraiment, je pense que c'est un truc naturel. Je pense que même à Loulipo, il y a toujours eu ça, tous les gens qui jouent avec les mots et tout. On arrive très vite à ça, mais on peut se rendre compte aussi très vite que on peut parler de choses beaucoup plus profondes. Avec des contraintes très, voilà, les mêmes genres de contraintes.
Et c'est le cas, par exemple, dans Contes et décomptes que vous avez publié à l'association il y a quelques années, puis que l'association réédite en ce mois de novembre, où vous avez évidemment des histoires, toujours avec des contraintes mathématiques, celle-là, puisque les maths, c'est quelque chose que vous aimez, les maths et les sciences en général. Et certaines sont beaucoup plus, sont totalement émouvantes ou personnelles, autobiographiques. Les contraintes, ça n'empêche pas l'émotion, ça n'empêche pas de se dévoiler.
Bien au contraire, l'utilisation des contraintes fait qu'on est toujours un peu en décalage. Voilà, il y a une deuxième lecture, il y a toujours un recul. Mais justement, ce recul peut permettre d'aborder des sujets très très profonds. Et par exemple, j'en ai fait une dans Contes et des Contes qui est sur la mort de ma sœur. Et voilà, et c'est un simple décompte, je peux le raconter en deux mots, mais ma sœur venait de décéder et elle était morte dans sa 50e année, donc à 49 ans. Et donc je fais un portrait d'elle dans sa 50e année avec 50 traits et je parle d'elle avec 50 mots. La case suivante, elle rajeunit d'un an dans sa 49e année, 49 traits, 49 mots, etc. Et donc plus ça va, plus l'histoire va. Plus ma sœur disparaît, parce que dans le dessin, elle disparaît. J'ai de moins en moins de traits pour la redessiner. Plus elle rajeunit. Et moi, j'ai moi aussi pour parler d'elle. Donc, plus je vais à l'essentiel. Et en utilisant cette petite contrainte, je me permets de parler de ça, du temps qui passe et du fait que les souvenirs que j'ai d'elle vont disparaître aussi. Et c'est un processus naturel. Et voilà, donc je parle de ça. Mais j'ai pu faire un autre sur la mort de mon père, décidément.
Et il y en a aussi des plus drôles.
Il y en a bien sûr des plus drôles.
Sur votre voyage en Grèce totalement catastrophique, avec des variantes, des cases qui reprennent les décimales du nombre pi.
Les décimales du nombre pi qui me servent
avec
pour
un peu le même
pareil.
Système, nombre de motifs, nombre de mots.
Ouais.
Donc les contraintes, c'est pas forcément quelque chose pour se cacher, parce que j'entends contrainte, je pense un peu par exemple à Bobby Lapointe avec ses chansons, ses chansons farcies.
Ouais.
Et il dit à la fin, quand on voit les textes de ma chanson plein de calembours, de jeux de mots, on ne sait rien des sentiments nobles qui l'ont inspiré.
Exactement.
Il y a quelque chose de pudique dans la contrainte.
Exactement. C'est une pudeur, c'est un recul, un détachement qu'on a par rapport à son travail. Et pour moi, il est essentiel. Si j'avais pas trouvé ce biais, par exemple, avec la bande dessinée autour de ma sœur, si j'avais pas trouvé ce biais, je pense pas que je l'aurais fait. Je peux pas m'épancher comme ça, faire pleurer tout le monde et pleurer moi-même sur mon sort. Ça m'est impossible. Mais là, la contrainte me permet d'avoir ce petit décalage et du coup de pouvoir parler de choses assez profondes.
Ouais. Ouais, et parfaitement réussi et émouvant en l'occurrence. Merci. Alors, évidemment, Loubapo, ça a été créé sur le modèle de Loulipo, dont vous êtes membre aussi depuis un peu moins longtemps, l'ouvroir de littérature potentielle. Je voudrais vous faire écouter une des archives de l'un des deux fondateurs de Loulipo, en l'occurrence Raymond Queneau.
Raymond Queneau, est-ce que vous pouvez, vous, nous donner une définition du comique ?
Certainement pas. Enfin, je crois que personne n'y est arrivé. Enfin, il n'y a que la définition du littré qui fait remonter ça à son étymologie.
Est-ce que c'est la
qui
définition
concerne la comédie.
Mais vous n'avez aucune définition personnelle du comique.
Non.
Et à votre avis, quel est l'écrivain qui vous fait le plus rire, volontairement ou pas?
Aucun.
Aucun.
Quand j'étais plus jeune, parfois il m'arrivait de rire en lisant quelque chose.
Par exemple?
Christophe.
Et dans les écrivains du passé?
C'est un écrivain du passé, Christophe.
Oui, c'est un écrivain du passé.
Non, vous ne le considérez pas comme un grand écrivain.
Du plus loin.
Don Quichotte, Cervantes.
Il y a une histoire particulièrement drôle que vous connaissiez qui vous fasse rire?
Je suis incapable de retenir une histoire drôle. Et j'aime pas beaucoup qu'on m'en raconte non plus, parce que ça me fout de l'angoisse, toujours peur de ne pas comprendre la fin.
Je voulais vous faire écouter cette archive qui vous fait rire.
Ah bah oui, ça fait rire.
Étienne Lecroix, pour plusieurs choses. D'abord parce que Raymond Queneau cite Christophe comme un des grands écrivains du passé. Christophe, c'est un des premiers auteurs de bande dessinée. La famille Fenouillard, le savant Cosinus, le sapeur Camembert, etc. Donc ça montre un peu, pour Queneau, une certaine ouverture d'esprit, déjà une certaine liberté de considérer un auteur de bande dessinée comme un auteur du passé, un auteur avec, sans doute avec un grand A. Mais aussi, je voulais vous faire écouter ça parce que les réponses de Queneau déconcertent un peu le journalisme, mais je voulais quand même, moi, vous poser les mêmes. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes réponses que Queneau. On n'est pas obligé de suivre son maître en toute chose ou l'un de ses maîtres. Vous, Étienne Lecroix, qu'est-ce qui vous fait rire dans ce que vous lisez en bande dessinée ou ailleurs?
On finit par ne plus pouvoir rire des choses qui nous faisaient rire. Par exemple, Gottlieb, qui m'a tant fait rire, mais vraiment tant fait rire. Je le lisais avec des copains, mais on rigolait. Gottlieb ne me fait plus rire. Je sais que c'est drôle, mais ça ne me fait plus rire. Donc ça s'use. Donc c'est toujours des choses nouvelles, des gens qui vont chercher un peu plus loin. Et ça, c'est un processus normal, je pense, dans l'humour. Alors, je peux avoir une petite définition quand même de l'humour, parce que j'y ai un peu réfléchi. J'ai fait un mémoire autour du dessin d'humour, donc j'ai un petit peu réfléchi. Et moi, en tout cas, ce que je vois qui me plaît beaucoup, et je ne sais pas si c'est tous les humours sont comme ça, mais c'est le décalage qu'il peut y avoir entre le logique et le rationnel. Ouais, c'est ce décalage-là. Il faut qu'il y ait toujours un truc qui grippe là-dedans. Plus c'est irrationnel et plus c'est logique, plus c'est drôle pour moi. Voilà, comment expliquer ça? Bah, par exemple, si je prends la couverture de mes fifiches à gogo, j'ai fait, alors, pour ceux qui ne le voient pas, je vais l'expliquer, c'est un super-héros. Donc au début, on voit un super-héros, mais au lieu d'avoir la cape dans le dos, il a la cape devant lui. Donc ça, c'est pas rationnel, c'est pas, voilà, ça va pas. Et moi, je l'ai rendu rationnel en disant, ben, ce super-héros, c'est super gourmand. Donc la cape qui est devant lui, en fait, c'est sa serviette qu'il a nouée dans son cou. Voilà. Et alors, quand on explique un gag, ça le rend complètement à plat. Mais plus c'est irrationnel et plus c'est logique, plus ça me fait rire, en tout cas, moi. Et je cherche ça, oui.
Et alors, dans le dessin d'humour, justement, parce que vous décrivez le gag de votre couverture, ça fonctionne ou pas, parce que c'est quand même quelque chose de visuel. Ce qui fonctionne, c'est la corpulence de ce super-héros qui est un peu épais, avec des membres gros d'abord, puis des petits pieds, et puis surtout cette tête un peu de notable du 19e siècle, avec son gros nez rouge. Ça, c'est quelque chose d'assez habituel chez vous. Oui. Et puis cet air un peu sérieux de quelqu'un
un super-héros, oui.
Voilà, qui va... Et puis alors, il y a aussi une troisième chose importante dans le dessin d'humour, c'est l'élégance, finalement, de l'ensemble, avec ce fond vert, ces couleurs un peu, sans doute, à l'aquarelle.
Oui, c'est ça, oui. Oui, il y a du mélange. Oui.
Mais le dessin d'humour, donc vous venez de nous dire ce qui vous fait rire, c'est une tradition dans laquelle vous vous inscrivez vraiment, et en l'occurrence, là, vos inspirations ou vos maîtres, est-ce que c'est Sempé, Bosque, Chaval?
C'est ça.
Moi, ou est-ce que c'est des Américains?
Vous avez cité un peu une trilogie comme ça, ouais, qui sont un peu ma base. Ouais. En tout cas, moi, au départ, c'était Chaval. C'était j'ai découvert ça quand j'étais au lycée, par un lycéen qui était un copain, et voilà. Et donc, quand j'ai découvert Chaval, quand j'ai découvert qu'on pouvait, mais c'est ça, c'est un humour nouveau que je découvrais. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et donc, j'ai commencé par faire ça. Je me suis rendu compte assez vite que je gagnerais pas ma vie en faisant que du dessin d'humour. Mais j'ai toujours gardé ça et je continue d'en faire. Heureusement, il y a encore des supports comme Spirou ou Flûte Glaciale qui acceptent mes dessins d'humour. Donc, je continue de le faire. J'adore ça. Et ouais, c'est ma base, c'est ma gymnastique à laquelle je reviens tout le temps, ouais.
Mais est-ce que c'est fait pour faire rire, un dessin d'humour? On s'esclaffe rarement en lisant. Enfin, Chaval, ouais. C'est d'ailleurs toujours souvent grinçant, souvent un peu désespéré. Et Chaval était sans doute désespéré, d'ailleurs. Est-ce que vous, quand vous dessinez une de vos fifiches, vous cherchez à susciter le rire?
Oui, moi je cherche. Alors là, quand je fais ça, quand je fais du dessin d'humour, c'est basique. Je cherche à faire rire. Mais en même temps, faire rire, on se dit, c'est complètement gratuit. Pour moi, c'est... Mes dessins d'humour, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas si gratuit que ça, parce que ils cherchent à piéger le lecteur ou la lectrice. Voilà, ils font semblant de quelque chose et en fait ils proposent autre chose. Et ça piège le lecteur ou la lectrice. On veut une réponse justement qui soit, voilà, on voit quelque chose d'irrationnel, on veut une réponse rationnelle et on nous propose une réponse absolument irrationnelle, mais complètement logique. Donc, je piège la personne qui lit le dessin d'humour comme ça. Je lui fais attendre une réponse et je lui donne complètement une autre réponse, mais qui est tout à fait logique. Et donc, les gens qui rient de ça, c'est pour ça que je dis que c'est pas si gratuit que ça, les gens qui rient de ça, c'est des gens qui acceptent de rire de leur propre logique interne, qui acceptent de rire de cette fée piégée. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on lit un bon dessin d'humour, quand on regarde un bon dessin d'humour et qu'on rit, on va dire « Ah là, quel con !» En fait, le con, C'est pas tellement le dessinateur qui a fait ça. Je pense que c'est la personne elle-même qui s'est fait avoir.
Alors, dans vos fiches, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des super-héros, donc ça, il y en a beaucoup. Il y a Batman qui va tondre son gazon avec sa batte-brouette, ou plutôt ramasser les mauvaises herbes. Il y a aussi beaucoup de contes de fées. Il y a Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, qui va toquer à la porte de la sorcière, Hansel et Gretel de sa maison à pain d'épices, et la sorcière qui lui hurle « Arrêtez de tirer ma chevillette, vous vous êtes trompé d'histoire ». Et puis, il y a aussi beaucoup d'hommes préhistoriques. Oui. Dans tout ça, on peut voir peut-être une volonté commune d'aller chercher quelque chose, je dirais, d'universel, ou de plus petit dénominateur commun, pour prendre une expression mathématique que peut-être j'utilise pas à bon escient, comme vous allez pouvoir me dire. Oui. C'est quelque chose qu'on a tous en commun, les super-héros aujourd'hui, les contes de fées, la préhistoire.
Oui, j'utilise des stéréotypes, vraiment j'utilise des lieux communs, et je les détourne. Mais c'est un principe qu'ont utilisé plein de comiques. Mais c'est normal d'aller dans ce qu'on a de commun, parce que sinon, un dessin d'humour, il faut qu'il marche tout de suite. Il faut que ça soit saisi en quelques secondes. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on est obligé d'aller avec des trucs, des lieux communs, des banalités, en fait, mais on les détourne.
Alors, ces fifiches à gogo sont donc publiées par l'association, un très joli livre carré avec un beau papier de 224 de vos dessins d'humour. Mais il y a un autre aspect de votre travail dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. C'est votre travail peut-être plus militant que vous menez aux côtés des sociologues, Monique et Michel Pinson-Charlot, couple de sociologues qui travaillent essentiellement sur les classes supérieures de la société et sur les riches, pour dire les choses plus simplement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous les avez rencontrés très rapidement et comment est-ce qu'on passe de l'oubapo ou du dessin d'humour à un travail plus politique ?
Alors, comme je vous disais, quand j'ai commencé mon travail, j'ai fait du dessin d'humour et très vite, j'ai fait du dessin d'actualité parce que c'est un truc... qui m'anime. Je comme plein de gens, j'imagine, quand j'écoute le journal, les actualités, quand je lis le journal, ça me révolte et je me dis, on peut pas rester comme ça à rien faire. Donc très vite, j'ai fait du dessin d'actualité pour un journal, par exemple Politis a été mon journal pendant des années. Et puis j'ai un peu arrêté ça parce que déjà Politis m'a licencié à une période parce qu'ils avaient plus de sous. Et puis parce que je voyais que je tournais en rond et que d'autres le faisaient bien mieux que je ne le faisais. C'est pas pour être modeste, mais je trouvais que vraiment je le faisais classiquement, je le faisais bien, mais je voyais pas le moyen d'avancer dans ce que je faisais, ni de faire évoluer le dessin d'actualité. Donc j'ai un peu laissé tomber de mon propre chef aussi. Mais ça n'empêche que ça m'anime toujours. Et il s'est passé donc. Une éditrice, Marianne Zuzula, qui s'occupe des éditions de La Ville Brûle, me connaissait et un jour m'a proposé, elle connaissait aussi mon travail un peu militant comme ça, que je continue de faire pour des associations ou pour la presse, et elle m'a proposé de faire donc d'illustrer un livre de Monique et Michel Pinson-Charlot, que je connaissais pas directement, mais je connaissais un peu leur travail. J'avais lu Le Président des Riches, différents articles de eux. Et donc, j'ai tout de suite dit oui, j'ai pas hésité beaucoup. Je me suis dit, ça serait bien de faire ça, quoi, de reprendre un peu ma casquette de militant. Et puis, j'ai illustré ce bouquin-là. Ça s'est très bien passé avec eux. À la suite de ça, on en a fait un deuxième.
Donc le premier, c'était pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres.
Voilà. Et on en a fait un deuxième qui s'appelle Panique dans le 16e, qui est sur la construction d'un centre de SDF là, qui a eu près d'ici, au Bois de Boulogne, et qui s'est fort mal passé. Mais enfin, le centre existe quand même. Donc on a fait un bouquin là-dessus. Ça s'est aussi très bien passé. Et puis, il y a eu l'opportunité on leur a demandé de faire une bande dessinée. Et ils ont proposé, alors ça c'est les éditions Delcourt qui leur ont proposé de faire une bande dessinée, et ils ont dit, on veut bien en faire une, si c'est Étienne Lécroix, on serait bien content. Donc ils m'ont proposé, honnêtement j'étais parti sur autre chose, puis je me suis dit, allez,
et ça, c'était sur Cahuzac.
Et c'était sur Cahuzac, alors, ça s'appelle Les Riches au Tribunal.
Et aujourd'hui vous arrivez avec un jeu qui s'appelle donc Capital, avec un K et avec un point d'exclamation. Alors je vais ouvrir la boîte, on va essayer de jouer un petit peu tous les deux peut-être, mais pendant que j'installe un peu le plateau, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce jeu ?
Alors ce jeu, c'est un jeu...
Les règles, très brièvement.
Les règles, c'est un jeu comme un jeu de loi. Donc on choisit alors, au hasard, on est soit dominant, soit dominé. Alors, il y a un dominant et les autres joueurs sont des dominés.
Alors vous choisissez quoi ?
Ah ben, je vais être le dominant pour une fois.
Très bien. Alors dominant, puis on a un parcours de 82 cases comme les 82 années de l'espérance de vie moyenne.
Exactement.
Et puis un dé. Et au début, on se répartit le capital. Donc il y a des billets.
Il y a des billets.
Il y a du capital financier, il y a du capital culturel, il y a du capital social et il y a du capital symbolique. Alors comme vous êtes dominant, je dois vous distribuer 50 billets de chaque. Puis moi, comme je suis dominé, je prends 10 billets de chaque.
Ouais, oui, évidemment, c'est ça, voilà.
On part pas à égalité.
On ne part pas avec les mêmes chances au départ. Oui.
Et puis alors, on tire des cartes, on tire le dé, et puis il y a deux paquets de cartes, l'un pour les dominants, l'un pour l'autre pour les dominés. Ben, je vous laisse tirer le premier dé.
On y va. 3. Alors, je suis là. 1, 2, 3. Et je tire du coup une carte dominant. Alors, je dois chausser mes lunettes pour vous la lire. Alors, je la lis. Vous créez une fondation qui permet à des élèves méritants issus de milieux modestes d'accéder à de grandes et prestigieuses écoles. Tout cela redore votre blason de fort belles manières et vous fait gagner 10 capital symbolique et autant de capital financier. Voilà, donc on voit tout de suite que j'ai...
Donc la banque. Alors évidemment, c'est aussi le dominant qui fait la banque.
Qui tient la banque, oui, comme souvent. Oui.
Bon, alors à moi de jouer. Alors moi, je fais 1, déjà je pars.
Arrive déjà.
Je vais moins vite et puis je tire une carte dominée. Alors, inventer un slogan pour protester contre la privatisation de la SNCF, cela mérite bien 5 capital financier et 5 capital symbolique.
Ah donc, vous
on
pouvez
peut quand même
aussi.
Un peu
oui,
gagner.
Bien sûr.
Je croyais qu'à chaque fois, je me ferais plus. Mais les conséquences de la privatisation du rail seront désastreuses à tous les niveaux. Casse sociale pour les cheminots, dégâts environnementaux, dégradation et insécurité des conditions de transport. Donc, en rouge, en dessous, il y a un petit peu de pédagogie. On peut jouer avec... Avec ses enfants, des alors, petits.
On peut jouer, voilà, on peut jouer à tout âge. Et donc, il y a des commentaires qu'ont fait Monique et Michel Pinson-Charlot pour expliquer voilà, pourquoi il se passe ça et qu'est-ce que ça signifie que de tirer cette case-là.
Alors, je vous laisse rejouer un coup.
Et en
continuant, je dis que ce qui est bien, c'est qu'on peut enchaîner plus. On peut enchaîner plusieurs parties, puis quand on recommence la partie d'après, on garde tout le capital qu'on a amassé. Donc, les écarts de richesse au début sont encore
alors,
plus importants.
Vous, comme on a vu, les cartes ne sont pas forcément ni positives ni négatives, mais c'est vrai que le dominant a tendance à s'enrichir encore plus et le dominé à perdre de plus en plus. Mais il y a des cases qui renversent un peu la situation. Il y a des cases grève générale, révolution, tous ensemble. Et là, ça peut un peu redistribuer les richesses. Alors, je suis tombé sur la case 4. Où vivez-vous ? Dans les beaux quartiers d'une grande ville, vous gagnez 5 cas symboliques. Sinon, vous perdez la même somme. Alors moi, j'habite à Montreuil, même si c'est une ville qui s'embourgeoise un peu, ça n'empêche que ça reste quand même le 93. Donc je pense que je ne gagne pas 5 cac symboliques. Voilà.
Bon, eh ben, on va continuer la partie après l'émission, mais le rayon BD pour aujourd'hui, c'est terminé. Alors il faut dire que vous aviez déjà créé un jeu avec l'association Étienne Lacroix, c'était le Scroobable, qui n'est malheureusement plus disponible dans le commerce, et que peut-être ces liens entre jeu et bande dessinée vont continuer à se développer, puisque j'ai entendu parler d'un jeu qui est sorti cette semaine. Celui-là, c'est un jeu plus sur l'absurde et la théorie du complot, qui a été créé d'après Zai 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 de Fab Caro, donc qui est illustré par Fab Caro et qui s'appelle Crazy Theory. C'est édité par Le Droit de Perdre. Donc peut-être qu'un jour, on fera un rayon BD spécial sur les jeux de société. Merci beaucoup, Étienne Lécroix, d'avoir été notre invité. On se quitte avec vous encore en musique cette fois, puisque vous êtes aussi musicien. Ce morceau s'appelle Douce Ambiance. C'est un morceau de Django Reinhardt sur lequel vous avez écrit des paroles que vous chantez avec votre groupe Les Jacquelines.
J'ai rencontré Marie-Josée au bar du 14 juillet. À peine on a dansé, déjà on se détestait. Je lui ai écrasé tous les doigts pieds, elle écoute genoux et me refilait. On n'a pas pu se quitter, tellement qu'on s'en voulait. Peu à peu qu'on sait la violence, hier on se battait en chien de faïence. Demain notre haine sera immense.
Le rayon BD s'est terminé pour aujourd'hui. Comme chaque semaine, l'émission était préparée par Pascaline Bonnet. Marie-Laure Ciboulet était à la réalisation et nous étions aujourd'hui accompagnés à la technique par Valentin Bobinet. La semaine prochaine, nous parlerons de bande dessinée jeunesse à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.
On cherchait à se venger du sucre dans le bidon d'essence et de l'arsenic sans ordonnance. Les pièges à feu sous la balance, à quelle douce